Vous êtes sur RTL.
Pour comprendre. Bonjour Aurélie Jean.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences, entrepreneuse, spécialiste des algorithmes. Je donne le titre de votre dernier livre, De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, paru aux éditions de l'Observatoire. Aurélie Jean, le commissaire européen Thierry Breton va présenter ce midi des préconisations sur l'intelligence européenne et sur la protection des données. De quoi parle-t-on concrètement quand on évoque à la fois les données et l'intelligence artificielle?
Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est littéralement toute simulation qui va tourner sur un ordinateur, tout calcul. Et ces calculs donc sont créés à partir d'algorithmes implémentés dans des codes de calcul, dans des programmes informatiques dans l'ordi pour tourner sur un ordinateur. Et en fait, ces algorithmes ont besoin de données pour tourner, soit pour être calibrés, soit pour être entraînés, ou même être utilisés, donner une réponse à une question. Donc on les utilise tous les jours en fait.
Alors, ce sont donc nos données personnelles, autres que celles que nous publions sur les réseaux sociaux, par exemple nos données de santé, nos habitudes de vie, de consommation, les objets connectés.
Exactement, voilà. Et pas que des données personnelles, d'ailleurs plein de données. C'est vrai qu'on parle souvent de données personnelles, mais il y a d'autres données qui ne sont pas personnelles, qui sont utilisées pour que les algorithmes tournent et donnent soit des prédictions ou alors des recommandations ou même des réponses à des questions.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, il y avait un article hier dans Le Monde que je regardais sur, par exemple, un constructeur automobile qui donnerait des données, qui aurait des données, par exemple, sur l'usure de ses pièces. Ce ne sont pas des données personnelles, mais ce sont des données qui peuvent être intéressantes à utiliser pour, par exemple, mieux prévoir, en fait, la construction de pièces.
Donc, par exemple, des données particulièrement sensibles?
Par exemple, qui ne sont pas personnelles, mais qui peuvent être sensibles d'un point de vue industriel, par exemple.
Alors, je voyais, parce qu'on est dans des chiffres qui nous semblent nous dépasser, pour vous, les algorithmes n'ont aucun secret, mais le nombre des données émises par l'homme va doubler tous les 18 mois. Ça paraît absolument incroyable. Qu'est-ce qui explique cet emballement dans la production de données?
Oui, j'ai vu aussi ce chiffre récemment hier. Donc, en fait, y a plusieurs choses. D'une part, on a de plus en plus d'outils qui vont aller capter de la donnée, parce qu'on interagit de plus en plus avec des outils au quotidien, des applications, des logiciels. Après, il y a aussi, d'un point de vue technique, purement technique, c'est-à-dire qu'on est capable de plus en plus de traiter des données, un grand nombre de données sur des tailles plus courtes, sur des temps, des durées plus courtes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours capable, en fait, paradoxalement, de stocker davantage plus de données qu'on est capable d'en traiter. Donc on a toujours ce paradoxe. On est capable d'en stocker beaucoup plus qu'on est capable d'en traiter sur des temps courts.
Excusez-moi de l'image, mais on n'arrête pas d'acheter des voitures, mais le garage qui les attend est toujours plus grand, systématiquement, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc on a de plus en plus de données. Et il y a une course à la donnée qui n'est pas forcément rationnelle, puisqu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'un nombre gigantesque de données. On est capable aussi d'en créer nous-mêmes, faire des données synthétiques pour essayer de tester les algorithmes. Enfin, voilà, il y a plein de choses autour de ça.
On imagine l'explication à cette augmentation, la hausse de l'équipement des ménages, l'apparition de la 5G, la multiplication des smartphones, c'est tout ça?
Oui, voilà, les objets connectés, nos interactions au quotidien avec des outils en fait, qui ont de l'intelligence artificielle embarquée, même sans qu'on le sache.
Alors, vous nous avez décrit, je dirais d'une façon plus générale, le problème. Ça représente un trésor financier, ces données?
Alors,
on n'arrive pas très bien à savoir.
Inutilement. Oui, voilà, j'aime pas trop ce terme, cette comparaison. Si je puis me permettre, il y a même des gens qui parlent en disant que c'est le nouveau pétrole. Enfin, j'aime pas trop dire ça. Je pense que la donnée, on peut avoir des plein de données si on n'en fait rien et si on les traite mal. Parce que souvent, quand on a des données brutes, il faut les traiter, les nettoyer, pour en faire quelque chose d'intelligent. Donc, il faut faire attention à ce genre de terme.
Alors, je reviens à Thierry Breton et aux enjeux, on pourrait dire à la fois européens et donc par définition planétaires. S'agit-il effectivement d'enjeux stratégiques quand il faut les protéger?
Oui, alors c'est un enjeu stratégique. Protéger les données personnelles ou non personnelles, c'est un enjeu stratégique parce que c'est un enjeu bien évidemment économique, parce que si on décide de tout fermer, on va pas pouvoir partager les données, on va pouvoir rien faire. Mais c'est aussi un enjeu stratégique d'un point de vue éthique, et là l'Europe a une place importante et à se positionner sur la place mondiale.
C'est pas le cas pour l'instant?
Alors si, parce qu'on a le RGPD, il faut pas l'oublier quand même.
Oui.
Le RGPD qui d'ailleurs influence d'autres pays, dont les États-Unis, donc il faut pas non plus oublier ça.
Donc je rappelle que c'est la réglementation pour la protection des données.
Des données personnelles.
Personnelles,
il faut bien citer là-dessus. Oui. Parce qu'on n'a pas de réglementation pour des données non personnelles, mais c'est un texte par exemple qui a influencé, un texte qui vient d'être voté à l'État de Californie, qui s'appelle le Californian Consumer Privacy Act. Donc qui est un texte en fait qui s'est inspiré du RGPD, et qui a d'ailleurs aussi évolué de façon intéressante, et je pense que c'est nous l'Europe, on doit aussi les regarder comment ces textes évolue dans d'autres endroits du monde.
L'idée qu'on a compris dans l'intention du commissaire européen, c'est de dire qu'il faut se détacher des Américains et des Chinois et trouver une indépendance en la matière. Est-ce possible? Alors, on comprend l'utilité a priori. Deux, est-ce possible? Et est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Et comment se situe-t-on?
Alors, le positionnement de Thierry Breton est pour moi intéressant, ambitieux et nécessaire, à savoir te dire il faut qu'on existe indépendamment des autres. J'aime pas le côté de se séparer, mais en tout cas, exister indépendamment des autres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer, parce que c'est vrai vrai que quand on présente ça, on a souvent tendance à mettre les États-Unis et la Chine au même niveau. Et je trouve que c'est assez injuste parce que les États-Unis, encore une fois, sont quand même beaucoup plus proches de nous que de la Chine, même s'ils ont énormément de données, qu'ils ont énormément de sociétés, de grands géants de la tech. Ils ont quand même beaucoup plus proches de nous, à savoir, je parlais tout à l'heure donc du texte en Californie. Il y a aussi la reconnaissance faciale qui a été interdite dans les rues de San Francisco. Donc, on n'est pas si éloigné que ça, en tout cas.
Confesser une conversation privée. Jean-Pierre Raffarin était là récemment. Oui. On sait la curiosité qu'il a pour la Chine. Et je lui demandais s'il avait un téléphone chinois ou un téléphone américain. Il m'a dit, dans les deux cas, de toute façon, on est écouté. Alors, est-ce qu'on peut les mettre dos à dos? J'ai l'impression que vous faites une exception quand même. Vous nous dites que les partenaires sont a priori plutôt américains.
Disons que je pense qu'il ne faut pas se mettre la Chine à dos non plus, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver des moyens de collaborer et de tendre vers un consensus, en tout cas de les influencer peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouve ça souvent injuste. Moi qui vis entre les États-Unis et la France, je peux vous assurer que je trouve ça injuste de mettre les États-Unis et la Chine au même niveau, alors qu'en fait, encore une fois, il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui sont intéressantes à voir et à observer par rapport à nos textes chez nous.
Merci beaucoup, Aurélie Jean, de votre pédagogie.